Dernier avertissement concernant l'espace public. L'espace public est un espace neutre, c'est-à-dire que toute manifestation d'existence singulière y représente une atteinte à l'intégrité d'autrui. Tout sera désormais mis en œuvre, mobilier urbain, décors adéquats, contrôle continu, pour rendre impossible... Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe?
On va carrément en réunion,
ce n'est pas une émission de radio, c'est un pli, un espace d'apparition, c'est un iceberg, un exercice de perception, un transformateur, un accélérateur, une pièce dans un mouvement.
Salut, bonjour, bienvenue dans Vacarme en Réunion. On est une nouvelle fois en direct de Dijon. Et aujourd'hui, on accueille trois personnes qui viennent nous parler du mouvement Nomouos et plus largement de la situation dans le sud de l'Italie. Et ces trois personnes sont Nino, bonjour Nino.
Bonjour.
Et notre ami Bilux, c'est ça?
Bonjour.
Oui, bonjour Bilux. Et bonjour Irénée, toi qui viens nous parler de tout ça. Et on va pouvoir attaquer directement sur...
Voilà,
sur la question.
Sur le sujet, alors, Irénée et Nino nous font l'honneur de passer à Dijon, c'est une exclusivité dijonnaise, et je tenais à le préciser, de venir parler de la lutte Nomouos, comme tu pouvais le dire, Martin. On va revenir tout le long de l'émission, justement, sur ça, c'est la situation de la Sicile. Actuellement, sa dimension politique, on va revenir sur l'histoire de la Sicile en fin de compte qu'on connaît assez peu, et ça ce sera un exposé mené par Nino. Ensuite viendront les détails de cette lutte Nomouos. Alors on n'a pas précisé ce qu'était en fait le Mouos, et c'est simplement une base américaine qui est en activité maintenant depuis 2015 et qui a une énorme base à côté de la ville de Nishemi, qui est au sud.
Sud, voilà.
C'est une base de communication, et il y a aussi donc, un système d'antennes et des énormes coupoles qui sont là pour aussi diriger, via en fait, des satellites, les drones américains qui vont en Afghanistan et qui vont en Irak, ou qui allaient à une époque en Irak, ce qui n'est pas peu. Donc on parlera ça, et bien entendu, du contexte sicilien, en fait, la vie n'est pas si simple. Se coltiner, en fait, cette réalité-là, donc face à la politique donc aussi nationale qui choisit d'accueillir les armées américaines, donc tous les sorts de cette militarisation du territoire italien et particulièrement celui de la Sicile, mais qu'on pourrait aussi aborder, admettons, avec celui de la Sardaigne. Donc voilà en fait de quoi nous allons parler durant cette émission.
Porte casuno con un stemma arreta, una coppolella che vi si era alzata, passa scampagnando pattuleta, con mano a papà te fa guardare. Tu fa l'americano, americano, americano, senti a me chi tu fa fa. Vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky e soda, poi tu senti disturbato. Tu abballo rock and roll, tu gioca a baseball, fai sorte per camella, chi te li dà la borsetta di mamma. Tuo fa l'americano, americano, americano, ma se nati in Italia, senta a me non c'è sta niente fa, ok napolitan, tuo fa l'American, tuo fa l'American,
tuo fa l'American, tuo fa l'American.
Thank you.
fa l'americano, americano, americano. Ma si nati in Italia, senta a me non c'è sta niente a fa. Ok napulitan, tuo fa l'american, tuo fa l'american.
Wish che so del rock and roll, wish che so del rock and roll. Wish che so del rock and roll,
tuo fa l'american, tuo fa l'american.
Wish che so del rock and roll, wish che so del rock and roll.
Eh bien, quel charmant morceau, quelle tenue. Je m'attendais pas à un morceau, je pensais à un morceau typique italien. D'une certaine manière, il l'est, mais il faut recontextualiser.
Oui, il l'est.
Ah, tu veux faire americano? Si, c'est un morceau. Bah, après la Seconde Guerre mondiale, pas mal de culture américaine se déferle en même temps que des Américains sur l'Italie. Mmh. Et cette culture va inspirer plein d'Italiens, notamment à Naples, où plusieurs veulent se prendre pour des Américains, mais ils n'ont pas l'argent, donc ils veulent faire des Américains, mais tout en demandant l'argent à leur maman, à la maman.
D'accord, ok.
Et c'est une chanson qui se moque de cela.
En mode un peu swing et twist. Donc, bah, très bien, ça nous pose un peu le contexte, justement, et c'est là-dessus qu'on va venir. C'est certes la Sicile, mais que sait-on en fait de la Sicile, si ce n'est en fait quelques images d'Épinal? Enfin bon, l'Épinal, c'est plutôt le nord-est de la France, mais on fait allusion à l'Etna, on parle que ça a été effectivement... Il y a des villes comme Ragouze, Syracuse, hein, voilà, genre en général, quand on en parle, c'est, ben, l'Italie, pour beaucoup de gens, c'est Florence, et puis voilà, le Quattrocento, et puis le passé glorieux de l'Italie, mais en fait, on sait assez peu, et qui plus est, en fait, du sud de l'Italie, de choses, et encore moins de la Sicile, donc...
Ouais, non, c'est effectivement la Dolce Vita, l'image de ces lagunes magnifiques où l'on mangerait des arancini et où on boirait de la granita sous un beau coucher de soleil avec l'Etna pour fond.
Oui.
Et pour revenir d'une manière historique, bon, bah déjà, il faut rappeler que l'Italie, c'est un pays particulièrement récent, pas l'État italien, par rapport à la France, vu que ça date de 1861 et qu'avant, la Sicile appartenait au royaume des Deux Siciles, donc royaume qui est sous régime Bourbon, il y avait le roi Bourbon, et où le palais royal était donc à Naples. En 1861, l'Italie va être unifiée. Cette unification va être souvent assimilée à une entreprise de colonisation de l'Italie par le royaume de Sardaigne, royaume de Sardaigne dont le cœur du pouvoir n'était pas sur l'île de Sardaigne, elle également pauvre, mais qui était dans le Piémont, donc à Turin. Et le gouvernement Cavour, à l'époque, voit le nouvel État italien comme une extension territoriale de ce royaume de Sardaigne. Il est assez notable que durant les premières années de l'unité italienne, les présidents du Conseil italien sont tous d'origine piémontaise et qu'il y a, d'une manière générale, il y a une prévalence piémontaise dans les hautes administrations étatiques. Administrations étatiques qui ont des grandes tendances centralisatrices, notamment héritées du régime napoléonien. L'idée est d'apporter dans la colonisation du sud, d'apporter la civilisation, entre guillemets, la modernité. Le prétexte se fait notamment sur l'inégalité infrastructurelle, parce que même si la première ligne de train a été posée à Naples, il y a beaucoup moins, par exemple, de voies ferrées dans l'ex-royaume des Deux Siciles que dans le nord Italie. Et tout comme les généraux napoléoniens le disaient au début du XIXe siècle, les chefs du nouvel État italien le répètent assez souvent dans des phrases qui peuvent être choquantes. Le sud, la Calabre, la Sicile, c'est l'Afrique. Et ainsi Farini, par exemple, personnage assez important, écrivait à Cavour qu'il avait envoyé dans le Mezzogiorno, une autre manière pour appeler le sud italien, en 1860, et disait « Mais ce n'est pas l'Italie, c'est l'Afrique, les Bédouins, en comparaison à ces ploucs, sont des fleurs de vertu civile. »
Alors, pour un rappel, en fait, il y a encore énormément de personnes du Nord qui peuvent caractériser, en fait, le sud comme ça.
Tout à fait. Et après, l'unité avait promis aux paysans du sud italien la redistribution des terres, ce qu'ils ne vont pas avoir, ce qui va faire continuer le brigandage, c'est-à-dire des brigands qui vont essayer de récupérer les terres ou qui vont attaquer les petits propriétaires et les grands propriétaires, et qui ne vont pas obtenir la redistribution voulue. Il va y avoir un premier mouvement paysan d'ampleur, hein, les fascis, entre 1891-1894, ironie de l'histoire,
fasci.
Mussolini reprend de fascis, récupère le nom pour faire fascisme. Mais il faut savoir qu'à l'origine, le mouvement des fascis est un mouvement libertaire, socialiste et démocrate.
Ah oui.
Ce qui est du coup une récupération assez grave, un vol de mémoire d'un mouvement paysan qui fut un mouvement d'une grande ampleur et réprimé à la fois par l'État et à la fois par la mafia, qui agit dans ce cas-là, main dans la main avec l'État, pour réprimer ceux qui voudraient attaquer la propriété.
Alors ça, c'est quelle période, ça?
Ça, c'est à la fin du 19e siècle. À cette répression va s'en suivre une grande vague d'émigration, notamment vers les États-Unis et en Amérique en général. On va retrouver un mouvement de paysans d'ampleur à la suite de la Seconde Guerre mondiale, avec les mêmes revendications, c'est-à-dire que malgré la mémoire assassinée du mouvement libertaire des paysans par la récupération mussolinienne, il y a de nouveau des paysans qui veulent la redistribution des terres, ce qu'ils ne vont pas obtenir. Là encore, il va y avoir des répressions avec des bras de bandits armés, mais alliés avec le pouvoir, Portela della Ginestra, qui vont mitrailler des paysans en lutte. Et au final, la réforme agraire de 1950 ne va pas du tout combler les espoirs des paysans, mais provoquer elle-même un nouvel exode rural, une nouvelle vague d'émigration, et tout ça va s'accompagner, bien évidemment, du coup, d'une grande urbanisation, d'une mafia qui deviendra de moins en moins agraire et de plus en plus urbaine, et d'un intérieur des terres qui sera toujours de plus en plus vide. Mmh. Cet intérieur des terres va être repeuplé par des bases américaines dans les 50 années qui vont suivre, la première étant Sigonella en 1957, et par des bases américaines qui vont profiter du fait qu'il n'y a plus de mouvement paysan.
Mais en fait, qu'est-ce qui, en fait, le contexte Sigonella, c'est une base militaire.
C'était une base qui servait à l'aviation américaine à la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui après va permettre de camps aériens et qui, en 1957, l'État donne l'autorisation, donne la concession du territoire aux États-Unis, et en 1959 est enfin construit le bâtiment d'administration de cette base aérienne.
En fait, ça s'inscrit, bien entendu, cette initiative américaine dans le cadre de la constitution de l'OTAN. Donc l'organisation, en fait, transatlantique nord, parce que compte tenu de l'époque, on est dans la guerre froide, et il était question, en fait, d'organiser des forces coalisées, donc qui étaient atlantistes, à savoir l'Europe et les États-Unis pour schématiser, et qui se donnaient des moyens collectifs, entre donc chaque État, pour pouvoir, entre guillemets, anticiper, en fait, une attaque possible de l'URSS.
C'est ça, c'est dans le cadre, évidemment, de la guerre froide et de cette bataille entre les deux blocs que va être signé l'accord de collaboration militaire entre l'Italie et les États-Unis, accord qui va être signé en 1951. Et l'action de l'OTAN et le pouvoir des États-Unis, ils vont exercer en Italie, mais ils vont rester malgré l'effondrement du bloc soviétique en 1991.
Dalla bottiglia d'orzata, dove galleggia Milano, non fu difficile seguirlo, il poeta della vagina. La sua anima accesa mandava luce di lampadina. Gli incendiarono il letto sulla strada di Trento. Riuscì a salvarsi dalla sua barba un pettirosso da combattimento. I polacchi non morirono subito. Inginocchiati agli ultimi semafori, rifacevano il trucco alle troie di regime, lanciate verso il mare. I trafficanti di saponette mettevano pancia verso est. Chi si convertiva nel 90 ne era dispensato nel 91. La scimmia del Quarto Reich ballava la polca sopra il muro, e mentre si arrampicava le abbiamo visto tutti il di Cheope volle essere ricostruita in quel giorno di festa, masso per masso, schiavo per schiavo, comunista per comunista. La domenica delle salme non si udirono fucilate, il gas esilarante presidiava le strade. La domenica delle salme si portò via tutti i pensieri, regine del tua culpa affollarono i parrucchieri. Nell'assolata galera patria il secondo secondino disse a baffi di sego che era il primo: si può fare domani su
sul far del mattino e furono inviati messi fanti, cavalli, cani ed un somaro ad annunciare l'amputazione della gamba di Renato Curcio il carbonaro. Il ministro dei temporali in un tripudio di tromboni auspicava democrazia con la tovaglia sulle mani, le mani sui coglioni. Voglio vivere in una città dove all'ora dell'aperitivo non ci siano spargimenti di sangue o di detersivo. A tarda sera io e il mio illustre cugino De Andrade eravamo gli ultimi cittadini liberi di questa famosa città civile, perché avevamo un cannone nel cortile. Domenica delle salme, nessuno si fece male, tutti a seguire il feretro del defunto ideale. La domenica delle salme si sentiva cantare, quanta bella giovinezza, non vogliamo più invecchiare. Ritirarono nelle catacombe, accesero la televisione e ci guardarono cantare per una mezz'oretta, poi ci mandarono a cagare. Voi che avete cantato sui trampoli in ginocchio, coi pianoforti a tracolla vestiti da Pinocchio, voi che avete cantato per i longobardi e per i centralisti, per l'Amazzonia e per la pecunia, palastiristi e dai padri maristi. Voi avevate voci potenti, lingue allenate a battere il tamburo, voi avevate voci potenti, adatte per il vaffanculo. La domenica delle salme, gli addetti alla nostalgia accompagnarono tra i flauti il cadavere di utopia. La domenica delle salme fu una domenica come tante, il giorno dopo c'erano i segni di una pace terrificante. Da Palermo ad Aosta si gonfiava in un coro di vibrante protesta.
Ok, vous êtes de retour sur Vacarme en Réunion. Et bienvenue donc sur les ondes de Vacarme en Réunion. Aujourd'hui, nous parlons du mouvement Nomouos et du sud de l'Italie et de tout ce qui s'y passe. Voilà.
Voilà. Alors, on a eu un très très beau morceau qui s'appelle La Domenica del Salme. C'est bien ça. Oui. Alors, c'est un morceau assez important dans la mesure où on est en 91, à la fois c'est une sorte de, si j'ai bien compris, quelque chose qui revient sur la chute du mur de Berlin, mais c'est 91 et c'est une date importante et particulière en Sicile, si j'ai bien compris.
Oui aussi, oui c'est 91, c'est le moment où il n'y a plus des utopies en fait, c'est... tout ça va mourir. Et en Sicile, ce qui se passe à Niscemi, qui c'est le petit village là où il y a la base de qui on parle, c'est qu'il y a la dernière guerre entre familles mafieuses. C'est pas la dernière guerre complètement, mais c'est c'est de dire que il y a eu un conflit armé entre plusieurs familles du coin, qui c'était la famille de Cosa Nostra Niscemese, c'était la famille de Giancarlo Giugno, qui c'était les boss du temps, contre des familles de Gela, qui c'est un autre petit village à côté de Niscemi. Ils se sont fait la guerre et du coup, en fait, lui qui a gagné, c'est lui qui a pu avoir, avec ses entreprises, la possibilité de construire la base américaine. Et en fait, oui, c'est Giancarlo Giugno, c'est cette boss, dans ce moment-là, il est en prison. En juin de cette année, la justice italienne a confisqué bien plus que 200 000 euros de propriété, immobile et de terrain. Et du coup, pour exemple, on va voir aujourd'hui qu'il y a une porte de cette base Muos où il y a un morceau de terrain, c'est la propriété, c'est à le frère de droit de Giancarlo Giugno qui s'appelle Rizzo. Du coup, c'est ça, c'était dans 91, c'était un moment de une sorte de pacification sociale qui a été à Niscemi. Il était le dernier conflit armé et dans la place principale du village. Ils se sont fait tuer deux personnes et du coup, après, il y a eu ça. Ça a commencé, ils ont construit le périmètre de la base, ils ont commencé à construire et ils ont obtenu l'autorisation, bien que le territoire là où il se trouve la base, c'est une forêt de liège. Et c'est très très ancien, c'est séculaire, il y a des arbres énormes de plus de 500 années. Et c'est un lieu magnifique qui en fait devait être protégé plus tôt, mais non, ils l'ont fait à une base militaire qui fait 9 km de diamètre, de périmètre. Et là, du coup, ils sont tout de suite installés 46 antennes, qui sont les antennes qui consentent la communication entre sous-marin et
aérienne.
Et après ça, ils sont...
Donc, quand tu dis ils, c'est donc
les Américains, c'est l'armée des États-Unis. C'est le ministère de la Défense de la Marine américaine. Mmh. Ils ont obtenu cette possibilité de construire cette base et dans 2006, ils ont essayé de demander est-ce qu'on peut faire aussi une base Muos? Parce qu'en fait, la base Muos, c'est une toute petite base dedans la base même et qui compte 3 énormes paraboles. Et c'est ça qui sert à l'armée américaine à conduire les drones, qui sont les avions sans pilote, qui partent de la base qui est à côté, qui c'est la base de Sigonella.
Qu'on a évoqué précédemment.
Oui, c'est ça. Et au départ, en fait, les Américains, ils voulaient construire, mais la base Muos, les paraboles, ils voulaient les faire dedans la base de Sigonella. Mais comme il y avait plein de soucis, parce que les radiations qui partent de ces trucs-là, de cette parabole, sont très, très, très nocives.
Donc, il y a un impact écologique,
oui,
localement.
Oui, oui, énorme. Ça détruit beaucoup de flore, des animaux, de tout ce qu'il y a de particulier dans cet endroit. Et en plus, c'est bien nocif pour la santé humaine. Et on a vu qu'ils ont bien augmenté les cas de cancer, de leucémie et tout ça. C'est plutôt les cancers. Aujourd'hui, à Niscemi, il n'y a pas de famille avec qui il n'y a pas eu un mort ou quelqu'un qui a le cancer, qui a cette maladie. Et ça va augmenter. Et parce qu'en fait, la radiation, c'est 150 km. Du coup, c'est presque. Oui. Du coup, c'est presque toute la Sicile. Du coup, les antennes ont commencé à fonctionner et tout. Après 2006, il y a eu une partie du mouvement antimilitariste qui existait déjà en Sicile, parce qu'en fait, il y avait déjà eu des mobilisations contre Sigonella et contre Comiso, qui est une autre base qui se trouve plus au nord par rapport à Sigonella, qui ont commencé à dire oui, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Le gouvernement américain, il a demandé de faire ça. Et on va essayer de l'empêcher. Et du coup, c'est à partir de 2008 qu'il y a eu la naissance en fait du mouvement Numuos, qui est devenu un mouvement. Au départ, c'était un mouvement quand même politicisé, quand même constitué par des activistes qui avaient déjà lutté contre la militarisation des territoires, pour la défense des territoires, du coup. C'était ça, mais ça a été après le premier année de lutte, quand il y a eu vraiment la possibilité, quand les Américains se sont dit « bon, c'est fait, alors on amène tous les matériaux qui servent et on commence à construire les paraboles ». Et quand il y a eu ça, il y a eu la naissance du mouvement du côté plus populaire, qui c'était... c'est là qu'est né le groupe de Maman Numuos, qui sont cette femme, qui sont des mères aussi, mais qui ont choisi de lutter contre ça parce que c'est nocif, mais plutôt parce que c'est un instrument de guerre.
Alors là, tu parles des Mamas Numuos, tu les évoques, parce qu'en fait, c'est aussi un phénomène en Italie où il y a des groupes comme ça, les Mamas, ce qu'on appelle, qui ont une forte légitimité parce qu'elles sont mères de famille et qu'elles sont parfois plus écoutées, d'ailleurs, en fait, plutôt que des activistes qui vont être écoutés, qui sont considérés un peu, pour caricaturer, un peu comme des gauchistes. La Mama, en tant que c'est une institution, elles ont, en fait, une parole qui est plus écoutée par des gens qui, au premier abord, ne s'intéresseraient pas à des gauchistes, justement, ou à un discours un peu d'extrême-gauche. Je ne me trompe pas si je dis ça, en fait.
Non, tu ne te trompes pas. C'est un phénomène qui caractérise plutôt le sud de l'Italie, en fait, parce qu'on a les Maman Numuos, on a les Maman Notap, qui c'est le mouvement qu'il y a en Puglia. Et du coup, oui, c'est c'est pas parce qu'ils sont seulement en institution, parce que cette chose-là, c'est plein de contradictions et d'ambiguïtés aussi, parce que le maman, oui, c'est en institution, mais quand même, il y a toujours quelques maris à côté qui disent « tu dois pas faire ça, tu dois pas faire ça ». Du coup, quand il sort, quand il naît un groupe de femmes, mamans, qui essayent de lutter vraiment, qui vont faire ça, ça devient bien radical, ça, bien fort. Et en fait, ça a été ça. On a eu pendant 2010, 2011 et 2012 des groupes de mamans qui se mettaient devant les moyens de transport utilisés par les Américains pour amener les matériaux et pour empêcher l'entrée à la base. Et il y a eu dans 2013 et 2014 la pointe la plus, oui, on peut dire radicale aussi. Il y a eu des groupes, des activistes qui sont rentrés dans la base militaire, qui sont montés sur les antennes et ont dormi là-haut et, avec des hamacs. Et ça a consenti les jours après, soit dans le 9 août 2013, soit en août 2014, et, de rentrer à tout le cortège qu'il y avait au village et qui est arrivé à la base militaire, de rentrer dedans la base. Il y a eu des conflits avec les flics, bien sûr, mais le cortège est rentré. Et du coup, les premières années pour 2 jours, la deuxième année pour 4 jours, les antennes, les Américains, ont été obligés à étendre les antennes parce que c'était trop dangereux et tout.
Est-ce qu'on peut, là, par rapport à ce que tu dis, donc de ces 2 années où il y a eu donc des mouvements, un mouvement genre assez conséquent, c'est-à-dire que les occupations de la base, c'était des milliers de personnes et que ça rassemblait beaucoup d'habitants de Sicile, et que par là, c'est un mouvement qui a vraiment été très important, je dis « été » parce qu'on y viendra après, qui a mobilisé énormément de personnes, une grosse base sociale, si je comprends bien, et donc ponctuellement, régulièrement, il y avait donc ces rassemblements qui, ça a ponctué la vie politique locale contre ces antennes.
Oui.
Voilà. Qui était en cours de construction, donc. Enfin, pas ces antennes, alors, mais
c'était
les
46 antennes qu'on a occupées. Mm-hmm. C'était ça. Et les paraboles, et c'était en phase de construction, mais ce n'était pas active encore. Mm-hmm. L'activation arrive après, dans 2015. Et le moment du 2013 et du 2014 était important et bien populaire aussi parce qu'on a eu comme mouvement de lutte de faire des liens entre le fait qu'il y avait une base militaire à Nishemi, que les gens du village ne connaissaient pas du tout, ils ne savaient pas qu'il y avait une base militaire si grande, mmh. et le fait qu'il y avait plein de soucis sociaux à Nishemi. Nishemi, c'est un village de l'intérieur des terres siciliennes, du coup, là-bas, il y a des soucis énormes, pas seulement de travail, mais aussi, par exemple, il n'y avait pas d'eau. L'eau qui est gérée par la mafia au sud de l'Italie, elle n'arrivait pas à Nishemi jusqu'à deux années avant qu'aujourd'hui. Elle n'arrivait pas, c'est-à-dire qu'elle arrivait pendant chaque 18 jours, il y avait des citernes, des containers, que les camions ils amenaient ça, c'était tout privé. Du coup, mm-hmm. les gens ils achetaient l'eau pour avoir l'eau du robinet de sa maison, et chaque 18 jours. Ça, la lutte contre les mots, ça a aussi bougé tout ça. On a commencé à dire, oui, mais on n'a même pas l'eau ici, on n'a même pas les hôpitaux, on n'a pas l'école bien. et vous voulez faire les bases militaires, vous voulez faire la guerre encore, on est déjà détruit et vous continuez. Et alors, ça a mis en cercle un mécanisme qui a marché pendant ces années-là. Mm-hmm. Jusqu'à quand il y a eu l'activation de paraboles, en fait, c'était le départ de 2015.
Et là, ça a changé. Là, on passe dans une autre phase,
oui.
mais on va y revenir après la musique.
Oui.
Maledetto giù momento che grapivo l'occhio in terra da stu perno sti vent'anni di tormento con lo cori sempre in guerra notti e giorno terra che non senti che non vai capire che non ti ci nenti vedendo mi morire terra che non teni partiri e nen decidone pi falli tornari e piangi chia nina e piangi chia stanni curucori sempre in guerra notti e giorno maledetto cut in canna promettennuti la luce e a fratellanza terra che non senti, che non vai capire, dici niente, vide non mi morire, terra che non teni, ora li partiri, e niente ci dore, vi folli tornare. E chianci chià, Nino, e chianci chià, Nino, oh, ah, ah, ah. Oh.
Voilà, et nous voilà de retour dans Vacarme en Réunion. C'était donc Rosa Balistreri, c'est ça, hein ?
Oui, c'est ça.
C'est ça, tout à fait.
Donc, la chose, c'est que là, on avait terminé sur, 2015, les paraboles étaient en fin de construite et qu'elles sont activées. Donc, ce qui va quand même provoquer quelque chose d'assez fort, d'assez profond, en fait, dans justement la force de ce mouvement-là. C'est que, si j'ai bien compris, une partie des gens qui étaient engagés dans cette lutte-là le vivent comme une sorte de défaite, c'est-à-dire, mais en fait, on n'est pas arrivé à contenir ce projet-là et à nous faire entendre, malgré le fait qu'il y ait eu des sensibilisations, comme tu disais, par rapport à l'eau. Enfin, j'ai l'impression, en fait, que cette lutte-là, elle soulève bien d'autres problématiques,
oui,
et que ça permet de vectoriser, en fait, aussi, des revendications bien plus que simplement cette base-là. Donc voilà, mais on va reprendre donc le récit. Que se passe-t-il donc justement tout de suite après la mise en activité en fait de ces trois paraboles?
Ouais, c'est oui, les paraboles ils sont actives, c'est de 2015, janvier 2015. Plein de gens du village de Nichem, mais de l'entour aussi beaucoup, qui avaient participé beaucoup. J'ai parlé avant de Maman Nomous, mais c'est symbolique, ça. C'est pour dire qu'il y a eu vraiment, à part les mamans, mais il y a eu vraiment plein de familles qui arrivaient avec des enfants très petits, qui se mettaient devant les moyens de transport militaire, qui essayaient d'arrêter la possibilité pour les Américains de faire tout ça. Et quand il y a eu l'activation des paraboles, ça a cassé un peu le moral, ça a fait subentrer un peu de fatalisme, de dire oui, on n'a pas gagné, la lutte ça paye pas, et voilà, on a perdu du temps, mais plusieurs gens, oui, ça a été une chose. Plusieurs personnes, ils ont. Il y a été ça. Il y a été aussi que la génération de jeunes des années 80, qui avait un ischémie et qui s'était très, très, très active jusqu'au 2014-2015, après ça, il y a eu un phénomène très fort d'immigration parce que tous ces gens-là, ils avaient trouvé dans la lutte contre les mousses, il y a une forme de revanche sociale, de dire, bon, on est là, Nichem, il n'y a rien, mais quand même, on lutte, on vit, on fait des choses qu'on reconnaît qui sont bien pour notre vie. Quand ça s'est passé, quand l'activation des antennes est arrivée, plusieurs de jeunes ils sont partis. Et du coup, ils sont partis, la plupart sont au nord de l'Italie, quand même dehors de la Sicile. Il y a eu une sorte de rejet aussi après ça. Et d'autres, ils sont au nord de l'Europe. Ils sont, mais la plusieurs parties, ça continue à être actif dans ces trucs-là. C'est-à-dire que ça a été utile à quelque chose. C'est-à-dire à comprendre que ce n'est pas forcément nécessaire d'être là, dedans le village de Nichemi, pour donner des contributs à cette lutte. Oui, c'est bien sûr, c'est nécessaire de repopuler la Sicile, mais ça c'est un discours qui vaut pour toute la Sicile, pour tout le sud de l'Italie.
Donc parce inviter les gens à pas... revenir. À la...
Oui, 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 on ne peut pas laisser dans les mains de la mafia et des gens qui ont du pouvoir de, le territoire. Et du coup, c'est de comprendre qu'on peut donner des contributs à la lutte, même de loin. Même si on n'est pas là, on peut quand même, parce qu'il y a... On a étudié, on a vu qu'il y a des listes d'entreprises qui ont collaboré et qui, aujourd'hui, ils sont encore bien actives dans ces trucs-là, pour la construction soit de la base Mouos, soit de la base Sigonella, soit d'autres points de l'armée américaine en Sicile. Et ce ne sont pas des entreprises locaux, mais il y a des entreprises qui sont nationales. Par exemple, il y a la CMC, qui c'est la même entreprise qui a commencé à construire la ligne grande vitesse au nord de l'Italie, en Val Susa, là où il y a le Copen qui lutte contre ça, c'est la lutte notave. Et en sachant ça, bon, on peut dire aussi quand même qu'il y a une centaine de bases militaires aujourd'hui en Italie.
Et pas que dans le sud de l'Italie.
Non, c'est pas seulement. Il y a le nord-est, il y a plein de bases américaines. Et du coup, à partir de ça, et en sachant aussi qu'il y a des entreprises complices qui favorisent tout ça, et sont les mêmes entreprises qui sont en lien avec les pouvoirs économiques les plus forts en Italie et qui font les mêmes monstres, éco-monstres un peu partout dans le territoire.
D'accord, donc c'est ce que tu dis, c'est que c'est que vous avez d'une certaine manière changé un peu de stratégie, c'est qu'à un moment il y a eu une espèce de grand rassemblement avec une base sociale très large. Alors je tiens à préciser, quand tu dis village, en France, quand on parle de village, on entend 200 personnes. Michimi, c'est pas une ville de 200, enfin, c'est pas un village.
Non, ça fait entre 20 000 et 25 000
voilà.
personnes.
Excusez-moi. Je dois préciser ça. Voilà, donc en fait, ça touche beaucoup de personnes. Alors là, c'est ce que tu disais, il y a un changement, donc d'une certaine manière, on pourrait dire un peu stratégique.
Oui.
C'est qu'il y avait donc un rassemblement populaire, donc il y avait une masse de personnes qui se déplaçaient, et que là, maintenant, c'est plutôt, en fait, de montrer du doigt ou de solliciter. Dans le cadre de l'espace public, un peu d'apostropher en fait les pouvoirs publics et de dire en fait voyez l'implication de telle ou telle ou telle société, comme tu disais, et leur implication, les magouilles dans lesquelles elles sont, etc. Donc ça, c'est pour l'instant quelque chose qui a été énoncé, sur lequel vous travaillez. Enfin, je dis vous, en fait, en gros, les militants qui sont toujours contre le projet, enfin pas projet, mais en fait la base Mouos. Est-ce que c'est quelque chose que vous pensez qui est pertinente ou qu'il sera ou...
Oui, c'est de dire que même qui des copains et des copines qui habitent très loin du territoire du sud de l'Italie, ils peuvent donner des aides à cette lutte-là parce que ce n'est pas une lutte qui regarde seulement le niveau local, mais c'est une lutte qui peut faire ressortir, faire renaître un peu un sentiment internationaliste. Du sens de la lutte, parce que cette base, c'est une base qu'il y a en Sicile, mais il y en a autres trois, et sont positionnées en Australie, en Virginie et dans les îles Hawaï. Et ça représente le tentative par l'impérialisme, en fait, américain de une nouvelle, on peut dire, colonisation, la tentative d'avoir toujours plus de territoires colonisés, oui, et de détruire ce qu'ils vont détruire. Et du coup, même s'il y a des gens qui n'habitent pas en Sicile, même si l'invitation serait ça, c'est de dire venez voir la Sicile, venez voir le sud de l'Italie, parce que c'est énormément beau, tout ça. Et c'est un lieu aussi où il y a une socialité très forte. Et du coup, oui, bien sûr, la première invitation, c'est de lutter dedans le territoire.
Et quand tu dis socialité, c'est en fait qu'il y a un rapport, en fait, les gens que ça soit dans les villages, alors j'entends des petits villages, les villes, tu veux dire qu'il y a une manière de se rapporter au quotidien avec
fait,
les autres qui
l'image est... des gens du sud de l'Italie, c'est bien différent de l'image qui a donné le gouvernement italien dans ces moments-là à cette partie de l'Italie. C'est-à-dire qu'ils sont des gens bien accueillants, en fait, parce qu'ils connaissent ces histoires d'accueillance, d'ouverture d'un territoire qui est géographiquement obligé à être ouvert, à accueillir ce qui vient de, on peut dire, des étrangers. Oui, mais on est obligé de le faire parce qu'en fait, on a une position qui est au centre du Méditerranée occidental et qui et c'est nécessaire de faire ça. Et ça se passe vraiment. Il n'y a pas longtemps, en Calabre, il y a eu un bateau de Syriens qui sont arrivés et il y avait plein de gens à la mer, dans la plage. Et ils se sont jetés à la mer pour accueillir. Parce qu'ils sont vus, et personne ne savait qu'est-ce que c'était, c'était complètement illégal, mais ça se passe toujours dans cette année-là. Mmh. Il y a 5 années que c'est ça. Il arrive toujours plein de bateaux avec des migrants. Et du coup, il y avait les gens qui étaient à la mer, qui, c'était le mois d'août, c'était la période de l'été, plein été, et il y avait plein de gens qui ont accueilli avec toute la nourriture qu'ils avaient amenée à la plage pour faire sa journée d'été. Et les migrants qui arrivaient. Et ça, c'est un sentiment qui existe vraiment au sud de l'Italie.
Donc ça va envers et contre aussi l'image qu'on se fait, parce que souvent on parle effectivement de l'Italie, donc quand on parle de l'Italie en général, comme on dirait la France, l'Allemagne, on parle du gouvernement.
Oui.
Effectivement, on ne parle pas des populations. Et en fait, de rappeler, certes, qu'il y a en fait un phénomène qui s'appelle les élections démocratiques, donc on vote, certes, certaines personnes. Bon, malheureusement pour vous, vous avez quand même en fait un ministre que l'on sait d'extrême droite, donc de l'intérieur, Monsieur Salvini, qui lui, donc en train de faire passer des lois absolument racistes et complètement, puisqu'il est en train de criminaliser.
Oui, c'est un peu pire.
Ah oui, là, on ne pouvait pas avoir pire comme.
Salvini a aussi été élu par le peuple italien et a aussi eu des voix au sud, donc on peut. Enfin, il y a aussi du racisme très fort aussi dans le sud italien.
Oui, donc on ne doit pas non plus idéaliser cette image.
Pas du tout.
Mais c'est démontré que la Sicile n'est pas l'île fermée qui Salvini voudrait que soit. Parce que en fait, les gens ne sont pas leur gouvernement.
C'est que la Sicile est la voie d'accès principale en fait, des migrants qui viennent de Libye. Et que récemment, il faut savoir que Lampedusa, donc, qui est une petite île qui est au sud de la Sicile, donc. Ça a été, donc là justement, c'est Salvini qui a décidé que l'île de Lampedusa n'accueillerait plus en fait, de migrants.
Ça s'est passé un peu avant, oui, mais après, en fait, Salvini, c'est pas une nouvelle, en fait.
Oui, c'est pas une nouvelle, oui, il radicalise en fait la chose.
Oui.
Et donc, par là, la Sicile, entre autres îles en fait, européennes qui sont sur son front-là, est une des îles qui aussi accueille, en fait, voit arriver quotidiennement des bateaux et des chaloupes et tout ça, des migrants.
Oui. Alors, logiquement, en plus, ça serait la seule manière de repeupler un intérieur des terres qui s'est vidé à 3 phases. Là, on est dans la 3e. Depuis plus de 16 ans, il y a 2 millions de jeunes qui ont quitté la Sicile. Et pour revenir quand même avant de clore, vu qu'il reste 1 ou 2 minutes, avant pour revenir sur le Nomos, en tant que tel et invité au niveau international, rappelez qu'il faut repeupler l'intérieur des terres siciliens parce qu'effectivement, les jeunes partent, il y a des différences socio-économiques très fortes entre la jeunesse sud-italienne et la jeunesse française. Jeunesse française qui peut bénéficier des revenus minimums, ce qui n'est pas le cas dans le sud d'Italie. Un intérieur des terres qui se vide, et si il se vide dans les 20 prochaines années, vu que la population est de plus en plus vieille, c'est laisser ces intérieurs des terres aux Américains et aux diverses multinationales mafieuses, notamment pour spéculer sur ces terres. Et l'ichémie se trouve dans l'intérieur des terres, et la lutte nomos peut être un prétexte également internationaliste, car c'est une lutte qui ne concerne pas que la Sicile. Il y en a 4 bases MOS dans le monde, et celle-là est celle qui permet de contrôler les drones qui vont être au Moyen-Orient et de contrôler la Méditerranée. Donc c'est une lutte qui concerne tout aussi bien les Français, par exemple, et qu'il y a des campings qui se sont relancés. Donc il y en a eu un en 2017 grâce à des étudiants qui n'étaient pas de Nishemi, mais de Catane,
mais
siciliens, qui ont relancé et qui sont jeunes. Et qui ont relancé l'idée de faire quand même des campings nomos. Il y en a eu un C'est en 2018, cette année où Turi Vaccaro a été arrêté, donc un vieil homme pacifiste et saboteur a été arrêté pendant ce camping et il est en prison à Palerme à ce moment-là. Il y avait des gens qui venaient du Nord, des gens qui venaient de l'étranger, des Siciliens, et des nouveaux campings vont